Chapitre 10. Bonjour, Mr. Pride, fit Agatha d'une voix plaisante mais déterminée. Agatha Raisin à l'appareil.
Je n'ai rien à vous dire,
répondit Gerald Pride sur un ton bourru.
Arrêtez de me... Ne raccrochez pas, Mr. Pride.
Vous êtes en ce moment dans une situation bien fâcheuse et ce coup de fil pourrait vous sauver la mise.
De quoi parlez-vous?
Tenez-vous vraiment à ce que je fasse la liste de vos soucis, Mr. Pride?
Tout ça est quand même assez déprimant.
Qu'à cela ne tienne. Numéro 1, et pas des moindres, vous êtes suspect dans l'enquête sur le meurtre de votre père.
Ce qui nous fait un point commun.
C'est ridicule, je n'ai pas tué mon père.
Moi non plus, Mr. Pride.
Mais je connais un inspecteur de police qui serait ravi de pouvoir me mettre ça sur le dos. Quand il finira par retrouver un peu de bon sens, il faudra bien qu'il se concentre sur quelqu'un d'autre. Et vous serez la cible idéale.
Pourquoi ça?
Enfin, Mr. Pride, vous êtes avocat, vous savez comment ça marche, ces choses-là.
Primo, il déterminera à qui la mort de la victime profite le plus.
Vous,
mobile établi.
Deuxio, il se demandera si vous avez eu l'opportunité de commettre le meurtre.
En résumé, était-il possible que vous vous trouviez dans les bois à l'heure de la mort?
Eh bien justement, ça c'est impossible. J'ai un alibi en béton. J'étais chez moi avec ma femme.
Et jusqu'à présent, Mr. Pride?
Oh, mais puis-je vous appeler Gérald?
Non, je ne vous permets pas.
Je vais quand même le faire. Donc, jusqu'à présent, Gérald, Stéphanie a corroboré votre alibi.
Mais imaginez qu'elle revienne sur son témoignage.
Qu'elle se dise qu'au vu de la taille de votre ravissante maison de Lower Burleap, il lui est impossible d'affirmer que vous n'êtes pas sorti en douce au cours de la matinée.
D'autant que vous n'avez pas dû passer beaucoup de temps ensemble, puisque vous vous parlez à peine.
Pourquoi ferait-elle une chose pareille?
Parce qu'elle vous déteste, Gérald. Elle sait pour votre liaison avec Petula,
et elle ne va pas hésiter longtemps à vous détruire.
Elle ira bientôt trouver la police, ainsi que son oncle.
Un associé sous le coup d'une enquête pour meurtre et en plein divorce? Ce brave Andrew se débarrassera de vous en moins de temps qu'il ne faut pour dire adultère.
Vous voyez un peu comment la liste de vos ennuis peut s'allonger, Gérald? Vous n'aurez plus de travail. Votre réputation sera anéantie. Aucun cabinet ne voudra vous engager. Vous n'aurez plus de chez vous non plus, parce que Stéphanie et son oncle feront tout pour garder la maison.
Oh, et il y aura aussi la succession de votre père à gérer. Même si vous n'allez probablement pas en tirer grand-chose, une fois que Stéphanie et son avocat adoré auront mis le grappin dessus.
Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez me sauver la mise?
Je ne crois rien, Gérald. J'en suis convaincue.
Vous devez juste m'aider à organiser une petite rencontre.
Agatha conduisit prudemment sur le chemin plein d'ornières, s'agaçant lorsque le soubassement raclait le sol. Elle songea à se garer comme elle l'avait fait lors de sa précédente visite à Carsworth Manor, mais se rappela qu'elle avait laissé ses bottes en caoutchouc pleines de boue à côté de la porte de sa cuisine pour les nettoyer. Elle portait de nouveau son ensemble vert foncé, qu'elle avait assorti à des chaussures vertes. Certes confortables pour marcher, mais pas sur un chemin pareil.
Sans compter qu'elles étaient en daim.
Tant pis pour la voiture.
Mais enfin, pourquoi sommes-nous ici, Mrs. Raisin?
Demanda Petula, assise sur le siège passager.
Eh bien, pour aboutir à une résolution, j'espère, répondit Agatha en s'efforçant de garder le contrôle du véhicule.
Donnez à chacune des parties impliquées l'opportunité de repartir d'un bon pied dans leur vie.
Le chemin, plus plat, s'élargit à l'approche de la maison. Devant le perron, la voiture de Gerald Pride et le vieux Land Rover de Benny Lambert. À la mine de Petula, il était clair qu'elle reconnaissait les deux véhicules.
« Je vous ai prévenu qu'il s'agissait d'une réunion de famille, » fit Agatha. « Vous n'êtes pas à proprement parler de la famille, mais ce serait dommage de rater ça, non ?»
Elles entrèrent dans la demeure et, percevant des voix en provenance du salon, passèrent les doubles portes sur leur droite. Tous les yeux convergèrent vers elle et le silence se fit. Elisabeth était vautrée sur un canapé élimé. Benny avait pris place sur un fauteuil à côté d'elle. Gérald était accoudé à une cheminée en pierre richement décorée, quoique incrustée de suie. Stéphanie, elle, faisait les 100 pas devant les portes-fenêtres.
« Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» éructa cette dernière en regardant Pétula de ses yeux plissés. « Je vais bientôt tout vous expliquer, » promit Agatha. « Un peu de patience, vous ne serez pas déçus. »
« La cuisine est juste là, » dit Pétula en montrant une porte au bout de la pièce. « Je pourrais peut-être faire du thé pour tout le monde ?»«
Ah !» exulta Elisabeth. « Elle sait où est sa place !»«
Tu n'es plus domestique ici, Pétula, » intervint Gérald.
« Il n'empêche, » tempéra Agatha. « C'est très aimable à vous de proposer Pétula, et c'est une excellente idée. »
L'archère sortit. De nouveau le silence. Agatha regarda autour d'elle. Le décor était fatigué. Surface poussiéreuse, tapis usé, parquet délabré. Par endroits, on s'était efforcé de ranger et nettoyer. Certains cadres accrochés au mur avaient été époustés. Dans un angle, plusieurs cartons contenaient des objets décoratifs et autres curiosités. Agatha remarqua un ustensile en cuivre près de la cheminée qui piqua son intérêt. Une sorte de poêle à couvercle de la largeur d'une grande assiette au bout d'un manche en bois d'un bon mètre.
« Insolite cet objet !» fit-elle en regardant Gérald. « Qu'est-ce que c'est ?»«
Une bassinoire, » répondit-il manifestement désireux de satisfaire ses moindres demandes. Un chauffe-lit, les domestiques le remplissaient de braise et le glissaient dans les lits pour les réchauffer.
Mais certains, pour ne pas dire certaines, connaissent de bien meilleurs moyens de réchauffer ton lit,
ironisa Stéphanie. Des bruits de pas dans l'entrée écourtèrent la conversation. Tony apparut dans l'encadrement de la porte, suivi de Spider.
Ah, Tony, bienvenue, fit Agatha. Vous aussi, Mr. Hendrix. Comment vont Amy et le bébé?
Très bien, Mrs. Raisin, répondit-il.
Ils sont tous les deux à la maison. Il y en a pour longtemps? Je voudrais repasser les voir avant d'aller au travail. Vous avez décroché le poste? Félicitations!
Agatha applaudit.
Je suis en période d'essai. Faut pas que je sois en retard.
Vous serez largement à l'heure, Spider. Ne vous inquiétez pas.
Vous ne nous avez quand même pas tous réunis pour fêter le nouveau travail de ce crétin, rassurez-moi,
lança Elisabeth.
Non, en effet, Elisabeth, répondit Agatha, préférant ignorer son sarcasme.
Pétula revint avec un lourd plateau.
À présent que nous sommes tous là, nous allons pouvoir commencer.
Pétula fit le service, Agatha prit une tasse et alla se poster près de la porte.
Si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, c'est à cause du meurtre de Sir Godfrey Pride. Sa mort nous a tous concernés, et moi pas moins que vous autres, puisque je l'ai vu rendre son dernier soupir.
Elle marqua une pause. Tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Ils étaient tout ouïs.
Au cours de l'enquête, nous sommes tous devenus suspects, en dehors de Tony, évidemment. La seule personne que j'ai pu écarter au départ, c'est moi, car je sais bien que je ne l'ai pas tué.
Je n'ai pas, interrompit Gérald, mais elle lui fit signe de se taire.
Vous étiez le suspect numéro un, Gérald. À première vue, vous étiez celui qui avait le plus à gagner de la mort de votre père. Vous étiez en désaccord avec lui concernant l'avenir de cet endroit. Vous vouliez récupérer le terrain que votre famille avait cédé à l'église et vous vouliez lui faire signer un nouveau testament qui n'était pas franchement à son goût. Pour couronner le tout, votre femme, Stéphanie, a juré en public de tuer Sir Godfrey. À vous deux, vous aviez un mobile suffisant et l'opportunité, puisque vous vous fournissiez l'un l'autre un alibi. Il y avait aussi la possibilité que vous vous soyez associé à quelqu'un d'autre, Gérald. Il semblerait que votre mariage ne soit pas au beau fixe depuis quelque temps et vous êtes tombé dans les bras de votre ancienne maîtresse, Pétula.
Pétula sursauta et Gérald se dandina mal à l'aise. Mais seul Spider sembla apprendre la nouvelle.
J'ai l'impression que tout le monde était au courant de votre liaison, Pétula.
Sauf Spider. Néanmoins, vous, vous en saviez plus long sur lui que ce que vous avez bien voulu m'en dire. Quand je vous ai demandé si Sir Godfrey pouvait être le père de Spider, ou même celui du bébé d'Amy, vous avez dit que c'était impossible. Pourquoi avoir été si catégorique, alors que vous veniez de me faire des révélations sur la mère de Spider, sur Spider et sur Amy? Vous vouliez que je m'intéresse à eux.
Le mot trouvé dans la poche de Sir Godfrey, celui-là même qui l'a attiré dans les bois, était signé d'un A. A comme Amy. Idem pour le mot qui m'a attiré dans le cimetière. Mais ce que vous vouliez que je découvre en réalité, Pétula, c'était que Spider et Amy essayaient d'extorquer de l'argent à Sir Godfrey en lui faisant croire que le bébé d'Amy était de lui. Il comptait sur son grand âge et ses années d'alcoolisme pour l'embrouiller et le pousser à mettre la main à la poche en échange de leur discrétion. L'objectif de Pétula? Que Spider soit mon suspect numéro un. Et il faut bien admettre que Spider, dans le rôle du meurtrier, ça tient la route. La menace du déshonneur ayant échoué, vous n'aviez d'autre choix que de menacer l'intégrité physique de Sir Godfrey, poursuivit-elle en se tournant vers Spider. Mais ensuite, vous avez compris qu'il n'avait pas le moindre sou à vous donner. Alors, on peut imaginer que la situation a dérapé et que dans un accès de colère, vous l'avez tué. L'arme du crime était, je le rappelle, une flèche. Un objet on ne peut plus familier pour vous. Cela dit, chacun d'entre vous s'y connaît plutôt bien en matière de flèches ici. Vous vous êtes tous, à divers degrés, impliqués dans le club de tir à l'arc d'Ancombe. Elisabeth, Benny, Pétula aussi. Elle était présente à la kermesse et a un alibi raisonnable, dans la mesure où elle participait à la démonstration. L'alibi vaut pour Spider également, même s'il demeure possible que l'un ou l'autre se soit éclipsé quelques minutes sans que personne s'en rende compte. Je crois savoir que dernièrement, Spider a vu réapparaître ses saignements de nez. De même, Elisabeth, vous avez déclaré vous trouver chez vous avec Benny à Comfrey Magna au moment des faits. Mais personne d'autre ne peut le confirmer. Alors au même titre que votre frère et Stéphanie, votre alibi est plutôt léger. Vous avez également un mobile très précis, la vengeance. Votre père n'aimait pas Benny. Il ne voyait pas d'un très bon œil votre histoire et il vous avait exclu de son testament. À moins que... Je crois savoir qu'il y a eu quelques rebondissements de ce côté-là ces derniers temps. Et vous, ou Gérald, avez peut-être persuadé Sir Godfrey de vous réintégrer dans sa succession. Ce qui ne change pas grand-chose, sinon que votre mobile serait non plus la vengeance, mais l'appât du gain. Vous êtes sans emploi, et Benny navigue d'un petit boulot à un autre, vous rendant la vie particulièrement difficile côté finances. Les choses seraient tellement plus simples si vous receviez une part des biens de votre père. Autant de suspects que de mobiles, donc. À présent, passons à la scène de crime. D'abord, la flèche. Vous savez tous que c'est une arme mortelle et ce choix n'a pas relevé du hasard ou de la commodité. Les assassins, voyez-vous, voulaient créer la confusion. Au début, le meurtre aurait pu passer pour un accident, comme l'a cru la police d'ailleurs, puisque Sir Godfrey a été tué pendant la démonstration de tir à l'arc. Nous savons cependant que la flèche qui l'a tué n'a pas été tirée d'un arc, mais utilisée comme un poignard. Et qui peut s'approcher aussi près d'un homme, si ce n'est sa maîtresse? Sir Godfrey, ayant été trouvé le pantalon sur les chevilles, n'était-il pas juste de supposer qu'un rapport sexuel, quelle que soit sa nature, avait eu lieu? Ajoutez au mot signé « A » et au fait que vous avez affirmé que Sir Godfrey Pride était le père de Grayson, j'ai bien peur que tout vous désigne coupable, Amy et Spider. Non ? S'écria Spider. C'est pas nous, je le jure ! Je le sais, Spider. Mais le bébé et Sir Godfrey... Agatha fut interrompue par des bruits de pas dans l'entrée. Simon apparut dans l'encadrement de la porte et tendit un document à Tony, laquelle l'apporta à Agatha. Le bébé et Sir Godfrey ne sont liés en aucune façon, rugit Gérald. Un simple test ADN le prouvera. Simon et Patrick sont dehors si besoin, glissa Tony à l'oreille d'Agatha qui acquiesça. Un simple test ADN, comme vous dites, reprit Agatha en regardant Gérald droit dans les yeux, prouvera le contraire en réalité. Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas? Grayson et votre père ont des ADN très très proches. Et vous espériez ainsi porter le coup de grâce à Spider, n'est-ce pas, Elisabeth? Je ne comprends rien à ce que vous racontez, répondit Elisabeth avec un geste dédaigneux. Oh, mais vous comprenez très bien au contraire. Vous m'avez écouté avec beaucoup d'attention, comme vous écoutez votre frère.
Vous ne formez pas une fratrie des plus soudées, il est vrai.
Mais vous vous parlez.
Vous avez dû être ravi quand Gérald vous a annoncé que votre père voulait vous réintégrer dans son testament. Mais pas autant quand il a ajouté qu'il y aurait un troisième bénéficiaire.
Un tiers des biens, c'est moins bien que la moitié.
Votre père a refusé de signer le testament que Gérald avait préparé,
car il voulait y ajouter quelqu'un. Et à présent, je sais de qui il s'agit. J'ai ici les résultats de deux tests ADN. Et ils ne concernent pas Sir Godfrey et Grayson, mais Gérald et Spider.
Nous avons utilisé vos cheveux, Gérald, et votre sang, Spider, après que vous avez saigné du nez. Les résultats montrent, sans l'ombre d'un doute, que vous avez le même père. Spider, Gérald est votre demi-frère. Sir Godfrey était votre père.
Vraiment ?
Fit Spider interloqué. Gérald, je suppose que lorsque votre père vous a dit vouloir inclure Spider dans son testament, peut-être par culpabilité après tant d'années, ou par envie de subvenir aux besoins de son seul petit enfant, puisque ni vous ni Elisabeth ne lui avez donné d'héritier, vous avez été furieux. Cela dit, il vous a sûrement révélé que Spider, ironie du sort, lui réclamait de l'argent de toute façon. Il n'empêche, vous avez dû être vert de rage. Et j'imagine sans mal la réaction d'Elisabeth quand vous le lui avez répété.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Elisabeth, en apprenant que vous aviez un demi-frère et qu'il faudrait renoncer à une partie de votre héritage alors que votre père venait juste de vous réintégrer dans son testament?
Intolérable, sans aucun doute.
Alors, vous avez commencé vos manigances. Vous et votre frère avez toujours surnommé les cibles Grayson en référence à votre ancêtre, Grayson Pride, abattu d'une flèche par sa maîtresse. C'est son histoire qui vous a inspiré, Elisabeth. Vous avez préparé votre coup de sorte à faire croire à tout le monde que Sir Godfrey avait été tué par sa maîtresse, laquelle aurait tenté de déguiser le meurtre en accident. Vous saviez que Spider essayait d'extorquer de l'argent à votre père. Vous saviez également qu'au cours de l'enquête, la police le découvrirait et ferait comparer l'ADN de la victime à celui de Grayson. Vous espériez qu'il serait suffisamment proche. Après tout, un petit-fils et son grand-père partagent une bonne part de leur ADN pour que les enquêteurs estiment qu'il y avait bien parenté et décident de tester Spider. Sur quoi ils auraient eu la preuve que Spider était le fils de Sir Godfrey. Une aubaine pour vous, puisque le fait que son père l'ait négligé depuis l'enfance renforçait encore son mobile. Votre plan était de vous débarrasser de votre père et de faire accuser votre demi-frère. Vous avez donc emmené votre père dans les bois pour une promenade. La fille rebelle et son vieux père réunis. Et vous l'avez poignardé avec la flèche avant de l'abandonner à sa mort, le pantalon sur les chevilles, ou plutôt, votre complice l'a poignardé. Parce qu'avant de rendre son dernier soupir, Sir Godfrey a essayé de me dire quelque chose. Sur le moment, j'ai cru qu'il voulait articuler « fier pouliche », car il m'avait appelé comme ça plus tôt dans la matinée. Mais en réalité, il essayait de me révéler le nom de son assassin. Philippe. Philippe Benjamin Lambert. Elisabeth a détourné son attention, et ensuite elle l'a bloqué, n'est-ce pas, Benny ? Vous n'aviez plus qu'à lui enfoncer la flèche dans la poitrine, comme elle vous l'avait demandé. Ensuite, quand vous avez compris que mon enquête me dirigeait vers vous, Elisabeth, vous m'avez attirée dans le cimetière et une femme innocente, plus innocente que n'importe qui d'autre, a failli perdre la vie.
Gérald s'effondra dans un fauteuil avec un grognement de détresse. Agatha se tourna vers lui. Et Elisabeth profita de cet instant d'inattention pour se précipiter dans la cuisine, bénie sur les talons. Agatha se lança à leur poursuite, mais prit la porte dans la figure. Elle parvint à l'ouvrir en tirant d'un coup sec dessus et entra dans la pièce où Elisabeth cherchait quelque chose dans un grand placard en métal. À l'intérieur, elle aperçut deux arcs modernes, un assortiment de flèches et, horreur, un fusil de chasse qu'Elisabeth tendit à bénie. Aussitôt, il le pointa sur Agatha qui ferma la porte derrière elle. Pas question de prendre le risque
que Tony entre dans la pièce et finisse comme Margaret.
Un fusil de chasse, Benny ?
La gorge sèche, Agatha déglutit difficilement.
Plus efficace qu'un arc dans cette pièce, je suppose.
Benny se déplaça lentement pour couvrir la porte qui donnait sur le couloir sans quitter Agatha des yeux une seule seconde. L'autre porte, en dehors de celle qui était derrière Agatha, débouchait sur le jardin.
« J'hésiterai pas à tirer Mrs. Raisin, » prévint Benny. « M'obligez pas à vous descendre. »«
Fais-le, Benny !» cria Elisabeth. « Et on s'enfuit par le jardin !»«
Je... non, » balbutia Benny. « On a été trop loin. Où veux-tu qu'on aille ? On n'a pas d'argent. Ils nous retrouveront, et ensuite ce sera la prison. »«
Non, Benny !»
répondit sa femme d'une voix douce.
« On peut s'en sortir, repartir à zéro, loin d'ici et... »«
C'est pas vrai, Elise. Ils vont nous enfermer. Je te verrai plus jamais. Je pourrai plus prendre soin de toi. C'est fini. »«
Écoutez-moi, Benny, »
tenta Agatha. « Vous avez plusieurs crimes à votre actif, mais il ne faut pas aggraver votre cas. Vous n'êtes pas un homme mauvais, au fond. »«
On est des assassins, » corrigea-t-il.
Puis se tournant vers Lise.
« On peut pas le nier. »
Alors on va en finir, Lise.
Ensemble.
Toi d'abord. Il pointa son arme sur elle.
Et ensuite, moi.
Il plaça le canon du fusil sous son menton un instant.
Tout à coup, un rugissement de lionne se fit entendre.
Tony apparut derrière Benny et, brandissant le chauffli comme une hache, l'abattit sur sa tête dans un bruit métallique de cymbales fêlées, sitôt couvert par une détonation assourdissante. La fumée du coup de feu partit en direction du vieux plafond disparut sous un nuage de poussière de plâtre. Un puissant craquement annonça l'effondrement du plafond qui sembla se déchirer. Une poutre s'affaissa dans une pluie de décombres. Agatha se colla contre la porte d'un pas chancelant en toussant et ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, quelques instants plus tard, la poussière se déposait sur une scène de chaos total. Des silhouettes blanches s'affrontant au corps à corps. Simon avait plaqué un Benny complètement désorienté au sol. Pesant sur lui de tout son poids, il s'efforçait de lui bloquer les bras. Patrick récupérait l'arme pour la mettre hors de portée. Tony était aux prises avec Elisabeth. Agatha s'avança pour lui prêter main forte au moment où Elisabeth l'envoyait valdinguer dans le décor et se tournait, poing brandi dans les airs. Agatha lui attrapa le poignet et la poussa contre l'évier.
« Nom d'un sale barassonnette !»
siffla-t-elle.
« Margaret a failli mourir à cause de vous !» Elle lui décocha un crochet du droit dans la mâchoire, l'envoyant au sol, où elle se recroquevilla en geignant.
Benny et Elisabeth neutralisées par son équipe, Agatha, débraillée et couverte de poussière, retourna dans le salon.
« Vous autres !» grogna-t-elle avec un regard furieux. « Ne vous avisez pas de sortir d'ici ou vous aurez affaire à moi. La police sera là d'une minute à l'autre. »
De fait, la maison fut bientôt envahie d'agents en uniforme. Agatha raconta en détail ce qui s'était passé à l'un d'entre eux qu'elle connaissait un peu. Après quoi, elle s'assit à côté de Spider, complètement déroutée, et lui expliqua qu'Amy et lui étaient hors de cause, même si la police allait sûrement l'interroger sur sa tentative d'escroquer Sir Godfrey. Il téléphona ensuite à la jeune maman pour s'assurer que tout allait bien, et Agatha appela l'entrepôt pour signaler que leur nouvel employé serait en retard. Son récit amusa tellement le manager qu'il autorisa Spider à prendre un peu de temps et à commencer le lundi suivant. Alice Wong entra dans la pièce, repérant tout de suite Agatha.
« Agatha ? » fit-elle en se précipitant vers elle. « Est-ce que ça va ?»«
On s'est bien emplâtré encore, » répondit-elle en sortant un bout de plâtre de ses cheveux.
« Oui, je sais. Mauvais jeu de mots, mais je n'ai pas vraiment eu de quoi rire ces derniers temps. En tout cas, chaque fois que je mets les pieds dans ce fichu manoir, j'en ressors avec une tenue bonne pour le pressing. »«
Eh bien, voyez-vous ça, on a pris du galon, inspecteur Alice. »
Stéphanie, qui avait trouvé le moyen de se servir un verre de blanc, s'approcha d'un pas nonchalant.
« Bonjour Stéphanie, » dit Alice en souriant.
« Vous vous connaissez à ce que je vois ?» commenta Agatha.
« Nous avons grandi dans la même rue, » expliqua l'inspectrice.
Mes parents et Stéphanie sont pratiquement voisins. On a fréquenté la même école, mais...
Allez, Alice, n'aie pas peur de le dire, s'exclama Stéphanie.
À quelques années d'intervalle. Alice est en effet beaucoup plus jeune que moi, et beaucoup plus jolie aussi. Ce qui m'a toujours donné de bonnes raisons d'être verte de jalousie, mais...
Elle s'interrompit, pencha légèrement la tête d'un côté, scrutant le visage d'Alice.
Comment te sens-tu ?
Je vais bien, fit-elle en haussant les épaules nerveusement.
Pourquoi cette question ?
Demanda Agatha.
Enfin, voyons, Mrs. Raisin, pour une grande détective.
Vous l'avez jouée fine aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à cette stratégie, mais je n'ai rien à redire quant au résultat.
Gérald devait savoir ce que sa sœur complotait. Oncle Andrew ne va faire qu'une bouchée de lui, alors les prochains mois s'annoncent fort distrayants pour moi.
Il semble que ce soit aussi le cas pour Alice.
Ouvrez grand vos yeux de limier. Déployez votre... Comment vous dites dans votre jargon ?
Votre sens de l'observation.
Alice ?
De quoi ?
Fit Agatha sans comprendre.
Je suis enceinte, révéla l'inspectrice, rayonnante de bonheur.
Bill et moi allons avoir un bébé.
Un bébé ? Vous n'avez pas perdu de temps, dites-moi ! Vous vous êtes mariée il y a quoi ?
Félicitations !
Merci, Agatha. Alice la prit dans ses bras, puis recula d'un pas, se débarrassant du plâtre sur sa veste.
On n'a jamais réussi à avoir d'enfant, Gérald et moi,
confia Stéphanie, une pointe de regret dans la voix.
Enfin, c'est à l'image de notre mariage.
Prends soin de toi, belle Alice.
Stéphanie s'éloigna, laissant à Agatha tout le loisir d'interroger la jeune femme.
Mais, et votre travail ?
Je verrai bien après mon congé maternité. Je ne reprendrai peut-être pas comme inspectrice, mais j'aime travailler dans la police. Je suis sûre que je trouverai un poste qui me conviendra. Peut-être à mi-temps, peut-être... Oh, à vrai dire, je n'en sais rien.
Elle rit.
Je n'arrête pas de penser au bébé. Je suis toute excitée et en même temps, j'ai la trouille et je ne sais plus où j'en suis.
Tout ira bien, Alice.
Je suis très heureuse pour Bill et vous. Bon, et dites-moi, je dois rester pour faire ma déposition et autres réjouissances ?
J'en ai bien peur,
fit-elle en invitant Agatha à s'asseoir avec elle autour d'une table d'appoint. Puis, regardant sa tenue d'un air compatissant.
Votre tenue est fichue.
Pas grave, lâcha Agatha. Je ne l'aimais pas tant que ça.
Une fois Bill arrivé, Agatha lui adressa ses félicitations et se vit gratifiée d'une autre accolade maladroite. Elle lui fit un compte-rendu des événements, ce qui valut à Spider une sévère réprimande de la part de l'inspecteur. Après quoi, le téléphone d'Agatha sonna et elle put rassurer John, très inquiet. L'inspecteur divisionnaire Wilkes, quant à lui, brilla par son absence, ce qui suscita chez elle autant de joie que de frustration. Quel plaisir elle aurait eu à le railler sur son incapacité à résoudre le meurtre de Sir Godfrey Pride avant elle. Quand elle rentra enfin chez elle ce soir-là, tout ce dont elle rêvait, c'était de jeter ses vêtements dans la benne et de se prélasser sous une douche bien chaude. Elle s'était séché les cheveux et se maquilla légèrement quand quelqu'un sonna à la porte. Elle enfila un peignoir, descendit les marches et regarda par le judas avant d'ouvrir à James.
J'ai pensé que tu aimerais peut-être avoir un peu de compagnie après ce qui s'est passé. Et puis, je voulais te présenter mes excuses. Je me suis comporté comme un imbécile.
Tu as raison.
Tu as raison sur toute la ligne. On ne peut pas revenir en arrière ni raviver la flamme. Cette partie-là de notre relation n'existe plus.
James, je...
Non. Laisse-moi terminer. J'ai mis un temps fou à trouver comment te dire les choses. Et je ne veux pas perdre le fil. La vie est trop courte pour qu'on se la gâche avec des émotions négatives. À l'avenir, nous serons plus heureux en restant les meilleurs voisins et les meilleurs amis du monde. Soyons toujours là l'un pour l'autre. Nous nous le devons bien. C'est ce que je veux. Et je crois que c'est ce que tu veux aussi. Alors j'ai apporté ça, en gage de réconciliation.
Il leva une bouteille de vin et deux verres.
James, tu es en amour.
Elle se pendit à son cou et l'embrassa.
Entre, je t'en prie, je vais monter m'habiller. Pendant ce temps-là, tu...
Regardant par-dessus son épaule, elle aperçut une voiture s'éloigner dans Lilac Lane,
Elle l'a reconnu immédiatement.
Ah, c'était John.
John? Je vois. Et il vient d'assister à... À sa place, je serais un peu confus et contrarié.
En effet.
Eh bien, on scellera la paix à un autre moment, dit James en se dirigeant vers le portillon.
Va vite, explique-lui.
Merci, James. Je crois que c'est le mieux.
Elle trouva John dans son studio de danse, assis sur une chaise longue au milieu de la piste, à écouter un big band.
Benny Goodman, devina Agatha.
À côté de lui, une table d'appoint sur laquelle se trouvaient un verre et une bouteille de vin, bien entamée à en juger par sa position avachie. Il leva les yeux au son de ses pas sur le parquet et sourit. Un sourire plein de tendresse, mais résigné. Celui d'un homme qui accepte la défaite. Il baissa le volume de la musique à l'aide d'une petite télécommande.
« Je t'ai vu dans l'Isle Klein, » annonça-t-elle en s'accroupissant près de lui avant qu'il n'ait le temps de s'extirper de sa chaise longue. Ainsi, au même niveau, il pourrait parler sans qu'il se sente inférieur.
« Je t'ai vu aussi, avec James. »
« Oui, je m'en suis doutée, »
dit-elle en buvant une gorgée de vin dans son verre.
« Et donc, monsieur l'inspecteur, ils ne vous ont pas mis en garde contre les conclusions hâtives à l'école de police ?»«
Mais parfois, » commença-t-il en reprenant son verre pour le remplir, « pas besoin d'aller chercher plus loin que ce qu'on voit. »
« Sauf que ce qu'on voit n'est pas toujours le reflet de la réalité. »«
Je suis désolée, » soupira-t-il.
« Ça a été une drôle de journée pour moi, tu sais, de vraies montagnes russes émotionnelles. »
« Mais, attends une minute, » fit-elle en fronçant les sourcils.
« Tu as changé d'horaire. Tu ne devrais pas être au travail. »
« Non, tu as devant toi un ancien inspecteur de police mis à la retraite avec jouissance immédiate. »
« Quoi ? Ils ne peuvent quand même pas faire ça, si ? C'est l'œuvre de Wilkes ! Tu ne vas pas... »«
Calme-toi, Agatha, » interrompit John. « Tout va bien. Je devais prendre ma retraite dans quelques semaines, mais j'ai eu un nouvel accrochage avec Wilkes qui a décrété que notre incompatibilité nuisait au bon fonctionnement du commissariat. Il a fait en sorte que je puisse partir dès aujourd'hui.
Sérieusement ? » fit Agatha sceptique.
« Lui qui se plaint tout le temps des problèmes de sous-effectifs. » Il va demander quelques promotions et répartir les responsabilités différemment pour que la relève soit assurée. Mon départ va sûrement servir l'avancement de Bill Wong.
Ok. Et dans tes montagnes russes émotionnelles, c'est un haut ou un bas cette nouvelle ?
Elle but une autre gorgée et lui tendit le verre.
Un peu les deux, admit-il en riant. Mais te voir avec James, c'était un bas, sois-en certaine.
Tu es ridicule, là.
Vraiment?
Comment je peux espérer rivaliser avec lui?
C'est ton ex-mari, ton voisin, et vous semblez plus proche que jamais. Tu ne peux pas dire qu'il ne compte pas pour toi.
Il compte, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'après les soucis de santé qu'il a eus, et tout ce qu'on a traversé ensemble, je suis on ne peut plus soulagée qu'on soit sur la même longueur d'onde. James et moi savons au fond de nous que nous ne pourrons jamais reconstruire une relation amoureuse. Nous finirions par nous détester, ce que nous ne voulons pas. Nous souhaitons rester amis. Il sait que je ne suis plus amoureuse de lui. »
John se redressa comme traversé par une décharge électrique, manifestement regonflé par l'espoir.
« Se pourrait-il, » dit-il hésitant, « que tu sois un peu amoureuse de moi ? »
« Peut-être. »
Elle sourit, but un peu de vin, puis « Ça reste à voir. »
« Je connais un bon moyen pour que tu en aies le cœur net, » annonça-t-il en se penchant vers elle.
« J'ai toujours envisagé de me lancer dans une autre activité une fois à la retraite. Et aujourd'hui, j'ai téléphoné à ces gens avec qui je suis en contact depuis un petit moment pour leur dire que j'étais disponible plus tôt que prévu. Figure-toi qu'ils ont un poste à pourvoir de toute urgence. Ils veulent que je commence la semaine prochaine.
Je ne vois pas le rapport, mais c'est quoi ce travail ?»
« Professeur de danse sur un bateau de croisière de luxe, » répondit-il exalté.
« C'est l'opportunité de faire le tour du monde tout en enseignant un truc que j'adore, la danse, et payer avec ça. »
« Viens avec moi, Agatha. Partons ensemble. »
« Ma parole, le job de rêve. Combien de temps elle dure, cette croisière ?»«
Le temps d'un tour du monde. avec des escales fascinantes. Bassin méditerranéen, États-Unis, Amérique du Sud, Extrême-Orient, Australie. Toute une année.
Toute une année ? Répéta Agatha, les yeux comme des soucoupes. Ce n'était pas la première fois qu'un homme absolument charmant lui demandait de le suivre. Le dernier en date, c'était Chris, ingénieur de métier, qui partait en Californie. Elle avait décliné, et même si c'était la mort dans l'âme, elle devait s'avouer à elle-même que cette fois encore, elle ne pouvait pas partir avec John.
C'est très long.
John, j'ai l'agence à faire tourner, mon équipe qui compte sur moi, et toute ma vie est ici dans les Cotswolds. Je ne peux pas disparaître une année complète du jour au lendemain.
Je comprends, répondit-il d'une voix abattue. Je savais bien que ce serait le pendant négatif du job de rêve.
Je suis désolée, John.
Prenant appui sur le sol avec les mains, elle se releva, tâchant de ne rien perdre de son élégance.
Sincèrement désolée, mais ça ne pourra pas marcher. Il la laissa se diriger vers la porte sans un mot. Au bout de quelques pas, elle se retourna.
Cela dit, commença-t-elle le cerveau en ébullition, on pourrait étudier l'itinéraire du paquebot ensemble et voir à quel moment je peux te rejoindre d'un coup d'avion. Que dirais-tu de danser un tango en Argentine ? De nouveau galvanisé par l'espoir, il se leva d'un bond. Ou un swing dans le New Jersey, poursuivit-il en souriant. Ou une polka à Acapulco. Je ne suis pas sûr que la polka soit très répandue au Mexique. On s'en moque. Une polka à Acapulco, ça sonne bien. L'idée générale me semble assez géniale, non ?
Tout à fait géniale, répondit-il si ému qu'Agatha se demanda si ce n'était pas une minuscule larme qu'elle voyait dans les yeux de son grand flic à la retraite.
Partante pour un petit entraînement ? Il augmenta le volume de la musique et écarta les bras.
Avec plaisir. Elle s'avança vers lui. Et tandis qu'il la faisait virevolter sur la piste de son studio, elle songea à toutes les villes romantiques où il se retrouverait, tous les coins fabuleux où il danserait, sans pouvoir imaginer, à ce moment précis, un seul endroit au monde où elle préférerait être que ce pavillon de jardin dans la banlieue de Merceuster.
Vous venez d'écouter Agatha Reza Enquête, tome 34, En plein cœur, de M.C. Beaton et R.W. Greene, lu par Françoise Carrière. Une production Audible Studio.